On parle maintenant avec Real Alonde, qui est facile à suivre sur Twitter. Real Alonde. Également, il y a un podcast sur YouTube qui s'appelle Focus, un podcast quotidien sur le sport qui est fort intéressant. C'est l'expert sport et business pour Cogeco. Et une des belles portions de ma job, c'est que, oui, j'anime une émission de sport depuis 9 ans, mais j'ai la chance de travailler avec les meilleurs. Et parmi les meilleurs, il y a Real Alonde, qu'on joint à l'instant au téléphone. Bonsoir, Ray.
Bonsoir, Dan.
Comment vas-tu?
Ça va très bien, merci, toi.
Ça va bien. Ray, tu as travaillé au marketing du Canadien pendant plusieurs années. Tu attendais avec beaucoup d'attention la cérémonie d'hier. J'ai dit dans mon intro d'émission ce soir que j'avais été amèrement déçu de cette cérémonie-là. Je trouve que le Canadien n'a pas assumé en installant les joueurs de l'édition 93 dans les hauteurs du Centre Bell. Soit que tu assumes puis tu les présentes sur la patinoire, soit que tu penses que c'est une mauvaise idée puis finalement tu n'organises rien. C'est quoi ta lecture de ce qu'on a vu hier à la télé?
Écoute, Dan, je veux pas critiquer puis je veux pas non plus m'acharner là, mais je pense qu'à quelque part l'idée d'honorer les joueurs de 93, à mon avis, aurait dû être faite au printemps dernier. Alors, ça n'a pas été fait. Correct. On arrive, on se reprend l'automne suivant. On est officiellement en 2018, donc on peut calculer que le 25 ans tient la route encore. Mais déjà, de les placer le même soir que ta nouvelle équipe, avec beaucoup d'espoir, celle qui a une nouvelle attitude, puis celle qui vient nous donner de l'espoir pour l'avenir des Canadiens avec jeunes, vitesse, vigueur et ainsi de suite. Puis là, tu mêles ça avec des gars qui sont plus âgés, qui ont gagné la Coupe Stanley il y a 25 ans, puis eux autres, tu veux leur faire une soirée unique à eux, puis on mêle tout ça le même soir. Fait qu'on en a sur la glace, on en a en haut, on revient avec le flambeau, on fait un cercle autour du centre. J'ai l'impression que les Canadiens n'ont pas porté attention à ce que les Golden Knights ont fait au printemps dernier en série. Et ils ont, à mon avis, pas investi suffisamment de temps de recherche au niveau technologique, au niveau créativité. Parce qu'à un moment donné, Dan, il faut que tu réinventes et il faut que tu rajeunisses. C'est comme dire que, tu sais, on augmente le prix d'un restaurant pour un repas d'une année à l'autre, on augmente le prix, par exemple, d'une salle de cinéma pour aller voir un film. Donne-moi quelque chose qui me prouve que t'as augmenté ton prix puis tu me demandes plus d'argent. En retour, t'as augmenté le niveau de ton show, de ton spectacle, de ce qui me donne la première impression de la saison 2018 à domicile. Puis j'ai trouvé, comme toi, que c'était moyen, que c'était correct pour le saluer les gars, mais tu sais, il manquait plusieurs joueurs aussi. Alors pourquoi, comment on explique? C'est sûr que Patrick va dire qu'il coachait les remparts, puis, mais moi je me demande à quel moment on a demandé à Patrick. Puis on a-tu donné suffisamment de temps à ces gars-là de pouvoir réserver leur soirée?
Ouais.
Puis tu sais, on les a dans les gradins, mais ils veulent être sur la glace pour que tout le monde les voit de près, puis on a décidé de leur donner de l'espace en haut. T'sais, on a fait ça une fois quand on a fait ce que j'appelle le mur des légendes des Canadiens. Tous ceux qui étaient dans le temple de la renommée à Toronto, dans l'histoire des Canadiens, on leur a donné un nom avec leur numéro en haut. Et c'est là qu'on les a mis là pour présenter un peu leur espace. Mais c'est parce que le focus était sur cet espace-là physique du Centre Bell. Mais quand tu honores des joueurs avec une célébration de Coupe Stanley, ils méritent d'être sur la glace. Mais c'est mon opinion. Je la transmets de façon très candide et transparente.
Et ce qui est un peu paradoxal, Ray, c'est qu'il y a des gens cette semaine qui ont critiqué le fait que le Canadien revenait dans le passé pour essayer de maintenir l'espoir pour le présent et pour le futur. À l'inverse de ça, une organisation qui a eu beaucoup de succès dans les années 80, qui a d'ailleurs gagné 5 fois la Coupe Stanley, dont 4 fois sur une période de 5 ans, c'est les Oilers d'Edmonton. Ouais. Jadis, il y a un entraîneur-chef qui est arrivé là-bas, qui s'appelle Dallas Eakins, et lui a dit, enlevez-moi ça, les photos de Gretzky puis Messier, nous autres, on regarde en avant. Ça, ouais, c'était inapproprié comme geste, et je pense que Dallas Eakins a dirigé les Oilers en affaire comme 1 an et demi ou 2 ans maximum. Il ouais, avait été critiqué pour ça. Lui, il voulait pas que ses jeunes joueurs se servent des exemples du passé, alors qu'à Edmonton, ça aurait été une très bonne idée.
Oui, puis je suis absolument en faveur que les Canadiens aient célébré l'équipe de 93. Absolument. De toute façon, ton histoire, ton succès, ce que tu as écrit là, comme accomplissement au fil de 110 ans presque des Canadiens, là, ben ça compte pour beaucoup, faut pas l'oublier jamais. Et faire des ponts vers le passé, c'est tout à fait correct. Parce que ces joueurs-là méritent, parce qu'en plus, ils sont des ambassadeurs pour l'histoire des Canadiens. Et, alors, je pense que les Oilers ont raté le bateau là-dessus, puis dans le cas des Canadiens, ils ont bien fait. C'est juste que pour moi, Dan, ils méritaient leur propre soirée. Ils méritaient leur propre occasion. Puis si je te parle uniquement au niveau marketing, pourquoi essayer de faire deux choses moins bien que d'en faire deux superbement bien en deux occasions différentes? Ouais. Parce que les Canadiens auraient pu, un autre soir bientôt, honorer cette équipe-là, de reporter l'arrivée des Kings de Los Angeles. Cela était à point. Et comme ça, leur donner une soirée magique. Ça aurait créé encore plus d'événementiel, plus de valeur pour le partisan qui veut acheter des billets.
OK. Ce soir, je suis loin d'être un expert et c'est pour ça que je suis content de te parler ce soir. Dans la Ligue nationale de hockey, ce soir, il n'y a pas de match. La saison a débuté le 3 octobre. Nous sommes le 12. Au niveau marketing, de manquer un soir de hockey comme ça, un vendredi soir, probablement que tu vas me dire que c'est pas une catastrophe puis je m'en porte pour rien, mais je trouve ça quand même pas banal.
Oui, ben, t'as raison dans tout ce que tu dis. C'est pas une catastrophe. Tu t'emportes un peu, mais c'est vrai de le souligner parce que, écoute, le hockey doit faire sa place. Puis là, t'as les séries de baseball qui commencent ce soir.
Oui.
Brewers-Dodgers. Puis demain, les Red Sox puis les Astros, en plus des Brewers-Dodgers. Le samedi, c'est évidemment le football universitaire américain. Là, je parle juste des États-Unis. Oui. La NBA termine son calendrier préparatoire. La NFL va jouer évidemment dimanche et lundi. Alors, la Ligue nationale de hockey n'a pas intérêt à rater des occasions de prendre sa place. Parce que sinon, on l'oublie vite, on passe à autre chose. Alors, comment expliquer que 15 confrontations possibles, 15 fois 2 égale 30, là, on ne pouvait pas en avoir une de cédulée pour ce soir? C'est difficile à imaginer. Est-ce que c'était des conflits d'aréna, puis c'est une coïncidence? Je l'espère. Mais en tout cas, c'est une occasion ratée de pouvoir toujours être dans la nouvelle, dans l'actualité, Dan. Et c'est ça qui compte au niveau marketing.
OK. Ray, tu as fait un focus récemment sur la commercialisation des clubs de la LHGMQ. Est-ce que c'est en lien avec le mandat que la LHGMQ t'avait donné il y a un an ou deux, où tu avais fait une tournée de la Ligue?
Bien, c'est en lien, oui et non, dans le sens que je suis dans une... j'essaie de garder une perspective très grande. Alors, de ne pas toujours traiter les mêmes sujets. Alors, pour certains, le hockey junior, ils vont dire « Oh, délit, j'écoute pas ça, j'ai pas d'intérêt. » Pour d'autres, ils vont dire « OK, finalement, c'est un sujet qui est hors sport professionnel. » Pour moi, le hockey junior, c'est la relève du hockey au Canada, que ce soit du junior majeur, que ce soit du junior A ou 3A au Québec. J'ai parlé des 193 équipes. Il y a énormément de joueurs juniors de haut niveau au Canada. Ils ont besoin d'aide et je parle régulièrement des équipes et je peux te dire que c'est un défi de vivre dans l'environnement du sport professionnel aujourd'hui parce que c'est tellement accessible le sport professionnel, Dan, que le hockey junior, aller chercher un stream sur une chaîne sur le web puis essayer de rivaliser avec tout ce qui se passe au traditionnel et au numérique pour le sport professionnel, tout sport confondu, c'est dur. Mais ça demeure la relève du hockey, notre sport national. Puis ces jeunes-là, c'est l'espoir. Ce sont les espoirs. Puis en plus, c'est abordable. Puis en plus, c'est ça qu'on fait quand on a 14-15 ans, puis on peut pas toujours aller au Centre Bell voir jouer les Canadiens. Surtout si on vit en région. Fait qu'il faut encourager les équipes juniors. C'est là qui sont les joueurs de l'avenir. On va en voir, que ce soit des Alexis Lafrenière, bien entendu, mais ces gars-là, on va les voir à la télé dans quelques années, puis on va pouvoir dire, on les a vus jouer quand ils jouaient junior. Puis les équipes du Québec performent bien. Bathurst a gagné la Coupe Memorial l'an dernier. Il y a encore beaucoup de grosses équipes au Québec cette année. Patrick Roy est de retour dans la Ligue. Tu sais, il y a plein de choses importantes dans le hockey junior. Alors, moi, mon appel, c'est de dire aux gens, supportez les équipes juniors, soutenez-les. Mais d'un autre côté, les équipes juniors doivent faire mieux. Ils doivent faire mieux pour copier l'expérience professionnelle, pour donner au moins la chance qu'un jeune se dise, au lieu d'aller au cinéma, on va aller voir une équipe junior jouer au hockey.
Ouais, je comprends. Je comprends, c'est ça. Puis, il faut que ça devienne... Sans dire un incitatif, il faut que ça devienne un réflexe naturel. Puis c'est trop facile de dire qu'avant la période des fêtes, avant qu'il y ait de la neige, on n'a pas le réflexe d'aller voir du hockey junior. T'sais, ici, à Québec, on s'attendait à avoir un effet monstrueux du retour de Patrick Roy. Finalement, hier, ils ont annoncé 6 700. La semaine dernière, contre Halifax, à peu près la même chose. Puis les gens qui ont cité au match, ils m'ont dit, Dan, c'était plus 4 002 que 6 007.
Ouais. Mais tu sais, il ne faut pas lâcher. Puis encore une fois, là, c'est vrai que la nouveauté du Centre Vidéotron, ça fait en sorte qu'au fil du temps, il y a un rattrapage qui se fait. Puis le hockey junior, Dan, je veux pas le critiquer, mais je te dirais que je trouve ça difficile pour les partisans que les équipes juniors se pactent à toutes les 2-3 ans oui. et sont moins bons pendant 2-3 ans.
Oui.
Puis là, on voit l'effet cette année. Tu sais, là, Halifax, il y a une équipe pactée puis loadée, puis continue de chercher des joueurs.
Oui.
Puis Bobby Smith, bien évidemment, lui, il accueille la Coupe Memorial cette année. Fait que non seulement il va participer, mais il veut la gagner.
Oui.
Mais on a vu cet effet-là depuis des années où une équipe est très, très bonne une année, puis l'année suivante, ben il n'y a plus de joueurs. Puis ce qui restait de bon, ils ont échangé contre l'avenir. Fait que le partisan doit composer avec ça. Le passage des joueurs est très court. Et c'est dur, mais je préconise encore une fois plus de parité pour qu'on limite les échanges pour vider les meubles et vider le garage au complet. Parce que sinon, le partisan se fait dire par les dirigeants de son équipe qu'on va être moins bon cette année, il faut l'accepter. Tu te rappelles l'année où Drummondville a perdu comme... Écoute, pas Drummondville, Moncton, comme 25-26 matchs de suite.
Oui, exact.
Non, mais imagine ce que c'est pour les partisans là-bas. Ah ben là, Moncton, cette année, une nouvelle aréna, ça va être super, il y a 9000 places, tout le monde veut voir la nouveauté, puis l'équipe est compétitive. Mais ils ont souffert pour y arriver. Ça, je trouve ça un peu tough.
Je comprends. Dernier sujet sur lequel je veux m'arrêter avec toi, c'est cette domination des émissions de télé aux États-Unis. Les 15 programmes les plus regardés en septembre, ça a tous été des matchs de la NFL. Tu vas me dire, c'est comme ça chaque année, mais quand même, ça en dit beaucoup, hein?
Oui, bien... C'est parce que l'an passé, on a tellement fait état de l'intervention de Donald Trump et de l'espèce de politique liée au protêt qui avait été initié par Colin Kaepernick puis Eric Reid. Puis ensuite, le scandale autour de Jerry Jones puis la chicane avec Roger Goodell. La NFL avait tellement de mauvaises nouvelles l'an dernier pendant que la saison se déroulait. Puis graduellement, il y a eu une baisse des assistances et une baisse des audiences. Mais là, cette année... C'est très positif ce qu'on voit. C'est pas juste parce qu'il y a des équipes extraordinaires. D'ailleurs, il y a des équipes comme les Patriots qui ont déjà une coupe de défaite. Puis, il n'y a pas vraiment une équipe qui domine, mais il y a des nouveaux visages comme Patrick Mahomes des Chiefs. Il y a quand même, encore une fois, un rappel à tout le monde là, que même si la NFL patauge un peu puis trébuche occasionnellement, il n'y a rien qui se compare à la popularité. La semaine passée, il y avait un match, je pense que c'était 2 ou 3 Yankees-Red Sox. Écoute, tu peux pas demander mieux que Yankees-Red Sox au baseball. Le match habituel du jeudi de la NFL a fait 4 fois les audiences de Yankees-Red Sox. Puis le match était, je pense que c'était Redskins et Saints. Il n'y avait absolument rien de spécial. C'était pas, tu sais, Cowboys contre Patriots ou rien de ça, là. Mais c'est pour te dire que dans la NFL, il y a comme une énorme profondeur de culture, de passion pour le football inégalée. Alors, pas étonnant que les 15 meilleures émissions dans l'Amérique entière, toutes choses confondues, sont les matchs de la NFL.
Ray, en terminant, est-ce que l'opération Charme de la NBA cette semaine à Montréal, ça a été un succès?
Ah, ça a été un gros succès. En tout cas, dans le Centre Bell, je suis allé au match mardi, ou mercredi, pardon, Raptors. Écoute, l'arrivée de Kawhi Leonard avec les Raptors, ça va rendre cette équipe-là redoutable. Alors, on pourrait peut-être, pour la première fois de notre vie, voir les Raptors en finale. Mais la réussite, Evenko a fait un bon travail. Il y avait 22 000 personnes. C'était comme un vrai match endiablé de la NBA. Bon, ceci étant, ça ne veut pas dire qu'on est prêt pour la NBA. Mais ce que je peux dire, c'est que ça a été une réussite au niveau de ce match pré-saison. C'est beaucoup à l'image des matchs pré-saison des Blue Jays au mois de mars-avril à chaque année. Les gens s'ennuient de ça. Jusqu'à quel degré, on en parlera dans une autre occasion.
Parfait. Un gros merci, Ray. Bonne soirée. Bon week-end.
Merci, Dan. Bon week-end, toi aussi.
Salut bien. Ray Lalonde, expert sport et business pour le réseau Cogeco. Retour de la pause, je m'entretiens avec l'ancien arbitre de la Ligue nationale de hockey, Stéphane Auger, qui maintenant analyse le travail des officiels pour TVA Sports.